à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maïlys André, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Et donc cette semaine, Culture Monde s'inscrit dans cette série d'émissions consacrées aux droits de l'homme, proposée par toute la chaîne à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, en partenariat avec le journal La Croix. Demain, nous évoquerons la question migratoire avec l'ONU qui s'apprête à adopter un pacte mondial pour les migrations. Il vient d'ailleurs d'être adopté il y a quelques minutes. Mercredi, nous reviendrons sur les politiques de lutte contre la pauvreté, la mère de toutes les batailles. Jeudi, nous évoquerons la défense de l'environnement, un droit difficile à défendre, mais pourtant essentiel pour les générations futures. Mais alors que l'ONU fête que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été votée il y a 70 ans maintenant, 70 ans après, bilan d'une ambition, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous sommes ici actuellement à la veille d'un événement très spécial dans la vie des Nations Unies, mais aussi dans la vie de l'humanité tout entière. Il s'agit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui deviendra la Magna Carta de tous les êtres humains à travers la planète.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
Et d'abord la voix d'Eleanor Roosevelt, épouse du président Roosevelt, mais surtout présidente de la commission chargée de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis également un discours extrait du discours de René Cassin présentant cette déclaration au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948, il y a donc tout juste 70 ans. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Voilà ce que déclarait René Cassin, co-rédacteur de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, insistant sur cette idée qu'il existe un lien entre le respect des droits humains et la guerre. En effet, la Déclaration universelle de 48, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies au Palais de Chaillot, était une réaction directe au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui avait ravagé le monde. Son objectif, acter l'existence de droits pour tous et doter l'humanité de valeurs communes, mais aussi d'institutions permettant de les protéger, dans l'espoir d'éviter le retour des conflits. Mais depuis, malheureusement, le monde n'a pas été épargné et dans de nombreuses régions encore, les droits sont bafoués. Alors quel bilan tirer de cette Déclaration universelle des droits humains? Quelle a été son influence sur l'ordre mondial? L'ambition et l'espoir des rédacteurs étaient-ils démesurés? Et d'ailleurs, quels sont les moyens dont le monde s'est doté pour défendre ses droits humains? Comment ont-ils évolué au cours du temps? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Olivier de Frouville. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris Panthéon-Assas, Paris 2, directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, également membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, auteur, entre autres, avec Emmanuel Decaux, de droit international public. Alors, on va beaucoup souligner, Olivier de Frouville, les manquements, les insuffisances liées à la protection des droits de l'homme, probablement aujourd'hui, probablement toute la semaine, mais peut-être qu'on pourrait commencer avec un peu d'optimisme et insister sur l'avancée que ça a constitué à l'époque. Vous m'avez gentiment offert tout à l'heure un pin sur les 70 ans de cette Déclaration des droits de l'homme, et effectivement, ça a été une avancée à l'époque. En réalité, avant ce texte, et vous le rappelez dans un article qui vient d'être publié sur le site de The Conversation, l'individu n'était pas véritablement reconnu sur le plan du droit international. C'est une avancée du point de vue du droit. Bien sûr, il y a des défaillances, il y aura des limites à tout ça, mais c'est une vraie avancée du point de vue juridique.
Oui, absolument. Et d'abord, c'est très émouvant, c'est la magie de la radio d'entendre les voix d'Eleanor Roosevelt et de René Cassin avec ses discours visionnaires. C'est une avancée fondamentale. Avant 1945, il n'y avait pas de droits de l'homme en droit international. l'individu était essentiellement un objet pour le droit international et non pas un sujet. Il ne pouvait être sujet que médiatement, à travers les droits que lui conféraient éventuellement de manière très ponctuelle les États. C'était le règne de la souveraineté et c'était le droit pour tout État de, au fond, un droit de vie et de mort sur les individus. Donc 1945, avec la Charte des Nations Unies, puis ensuite 48 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont vraiment une rupture fondamentale.
Et par ailleurs, si ces droits humains ne sont pas toujours respectés, en revanche, ils sont reconnus. Le monde, l'ensemble du monde les accepte en termes de droit international. Et ça, c'est pas rien.
Oui, alors ça, c'est le produit d'une évolution. En 1948, les 58 États qui adoptent la déclaration, il y en a 8 qui s'abstiennent, d'ailleurs, qui ne votent pas contre. C'est le début de la guerre froide. Mais puis, ensuite, ça a été vraiment le point de départ, ça a été le socle d'une évolution pour construire toute une architecture normative avec 9 traités fondamentaux aux Nations Unies qui sont très largement ratifiés. La Convention des droits de l'enfant, par exemple, est ratifiée par 196 États, la totalité, moins un État qui sont les États-Unis, ce qui est un peu infamant pour les États-Unis, mais la quasi-totalité des États ont ratifié cette convention. Une architecture normative impressionnante, et puis aussi un grand nombre de mécanismes d'application qui concrètement surveillent au jour le jour, quotidiennement, la situation des droits de l'homme dans le monde entier.
On vous reviendra évidemment sur cette architecture, mais d'abord, faisons un tout petit peu d'histoire. On pourrait penser effectivement que l'élaboration de ce texte est faite de façon collégiale, parfaitement consensuelle, sauf qu'en réalité, ça n'a pas été tout à fait le cas. Racontez-nous un peu les dissensions, les discussions qui ont eu cours à ce moment-là. Il y a eu des oppositions, et notamment des oppositions idéologiques derrière tout cela. On n'en a pas forcément toujours conscience, mais c'était le cas.
Oui, alors c'était d'une certaine manière, ça s'est plutôt bien passé compte tenu des potentielles oppositions qu'il pouvait y avoir entre les membres qui participaient à la Commission des droits de l'homme qui ont rédigé. C'était des gens qui venaient d'horizons très divers. Il y avait évidemment donc René Cassin, que nous connaissons bien, Eleanor Roosevelt aussi, mais il y avait aussi Charles Malik, qui était libanais,
Charles Duke, le Royaume-Uni,
oui. Chang, qui était chinois, Hansa Mehta de l'Inde, Anand Santa Cruz du Chili, donc des gens qui avaient des horizons très différents, des opinions, et puis évidemment toute l'Union soviétique et ses satellites aussi, hein, Romulov qui était un des experts de l'Union soviétique, qui faisait valoir une conception complètement différente. Donc il y a eu des oppositions très fermes, des débats sur, par exemple, la question de savoir s'il fallait mentionner la divinité comme étant à l'origine des droits de l'homme, ce qui était une proposition de Charles Malik, qui a une discussion absolument passionnante de ce point de vue-là, qui montre que finalement c'est au fond l'option laïque qui a prévalu à ce moment-là. Il y a eu une majorité qui s'est prononcée très très fermement pour essayer de placer la déclaration le plus possible dans un cadre œcuménique qui convienne à toutes les cultures. Chang, de ce point de vue-là, le chinois, a joué un rôle très important.
Vous parlez d'options laïques. Il y a, par exemple, dans l'article 2, on parle d'origine sociale. On parle aussi, dans cette déclaration de 48, de droit à la sécurité sociale. C'est l'article 22. Est-ce qu'il faut comprendre que derrière cette version finalement adoptée, il y a quelque chose d'une philosophie marxiste?
Non, il n'y a pas une philosophie marxiste. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'héritage de la critique marxiste des droits de l'homme. Donc ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a la prise en compte, il y a un consensus qui se forme au sein de la Commission des droits de l'homme à ce moment-là, non pas pour accéder à la conception soviétique, ce qui est à ce moment-là la conception qui s'exprime dans les constitutions soviétiques des droits de l'homme, c'est une conception extrêmement finalisée, en réalité fermée, mais pour prendre en compte les critiques qui ont été faites par Marx, des droits qui ont été déclarés en 1789 et qui ne tenaient pas suffisamment compte du fait qu'il y a une interdépendance entre les droits, qu'on ne peut pas, par exemple, jouir de ses droits politiques si on n'a pas un droit à l'alimentation ou un droit à l'eau ou un droit à la sécurité sociale. Et de ce point de vue-là, il y a eu un consensus. Charles Duke était syndicaliste. Cassin était quelqu'un qui était plutôt de la gauche, qui avait aussi adhéré au programme du Conseil national de la résistance, sortir de la guerre, donc qui était très sensible à ses idées. Eleanor Roosevelt elle-même était évidemment très libérale aux États-Unis. Et donc, il y a eu un point de passage très important qui a permis la prise en compte et la déclaration des droits économiques, sociaux et culturels aux côtés des droits civils et politiques.
Si tous les pays, Olivier de Frouville, acceptent ce texte, c'est aussi parce qu'il n'a qu'une valeur déclarative. Précisément, on aurait bien voulu, en fait, à l'époque, que sa portée juridique aille plus loin, puisqu'il a été question de créer des obligations juridiques. Cette ambition a même abouti à deux projets de texte complémentaires. Un, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et puis le pacte international relatif aux droits civils et politiques, sauf qu'on n'a pas réussi pour le coup à se mettre d'accord et que finalement les États ont refusé de donner aux droits de l'homme un caractère positif.
Alors, dans l'immédiat, en 1948, il y avait une question de tactique, là, donc Cassin était très, très vite conscient. Il s'est aperçu que lui, il voulait pousser effectivement directement pour l'adoption d'une convention et des mesures d'application. Et ils se sont aperçus que l'opposition Est-Ouest, à ce moment-là, se radicalisait, que le camp soviétique allait être de plus en plus réticent à adopter et à accepter la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'où la décision de transmettre à l'Assemblée générale en priorité la déclaration sans attendre la mise au point des pactes. Et ils ont bien fait puisque les pactes ont été mis au point uniquement en 1966 et ils sont entrés en vigueur ensuite dix ans plus tard en 1976, mais ils sont aujourd'hui largement ratifiés, largement acceptés. Donc les obligations juridiques qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont aujourd'hui bien établies.
Et dans les constitutions ? Pas toujours. Si on regarde la Constitution française, seuls, je crois, les droits de 1789, non, sont rentrés dans la Constitution à proprement parler, non ?
Ah non, alors parce que après la Seconde Guerre mondiale, on y a ajouté justement, à travers le préambule de la Constitution de la 4e République, les droits économiques et sociaux, donc qui aujourd'hui font partie du bloc de constitutionnalité.
71, c'est ça ?
À partir de 1971, effectivement, le Conseil constitutionnel affirme sa compétence pour contrôler la conformité des lois à ce bloc de constitutionnalité.
Depuis ce texte de 1948, Olivier de Frouville, il y a eu énormément de conventions relatives aux droits de l'homme qui ont été adoptées, il y a eu des traités en tout genre, on a étendu ce texte en le déclinant dans des domaines divers, sociaux, économiques, politiques, on a précisé un certain nombre d'obligations pour les États, on a créé des spécificités en fonction des catégories de personnes, vous parliez tout à l'heure des droits des enfants, on pourrait parler des droits des migrants, des droits des handicapés. Finalement, pourquoi cette inflation de textes ? Si tout était dans la déclaration de 48, pourquoi ne pas s'arrêter là ?
Alors, la déclaration de 48 est un texte magnifique, je dirais au sens presque français de l'esthétique juridique, c'est-à-dire que c'est un texte court qui a volontairement les auteurs ont volontairement l'ont réduit au minimum. Il y avait certaines propositions qui voulaient le développer, notamment les Britanniques voulaient y ajouter disons davantage de considérations liées aux limites. Ce texte a été adopté comme un texte court avec justement l'idée que ultérieurement on adopterait un certain nombre de conventions internationales qui développeraient et déclineraient la déclaration sous forme d'obligations pour les États. Donc il y a eu les deux pactes internationaux sur les droits civils et politiques, et puis après, on a voulu décliner à nouveau et développer ces obligations sur un certain nombre de thématiques très importantes, par exemple la torture ou la discrimination raciale, la discrimination à l'égard des femmes, ou pour un certain nombre de catégories de personnes. Et donc là, on a adopté des conventions internationales que les États ratifient et par conséquent s'engagent à mettre en œuvre dans leur ordre juridique national.
Si on regarde un peu l'architecture, Olivier de Frouville, il y a une dizaine, je crois, de comités chargés de surveiller le respect des droits de l'homme, il y a des groupes d'experts qui rendent des rapports en cas de violation, on a des entités régionales aussi, on a la Cour européenne des droits de l'homme, on en parlera tout à l'heure, il y a la Cour interaméricaine, il y a la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce qu'au fond, cette architecture institutionnelle des droits de l'homme, elle n'est pas trop lourde ?
Trop lourde.
Trop compliquée.
C'est-à-dire que
pas suffisamment lisible.
Pendant toute une première période, le développement de ce système s'est fait de manière empirique, avec une sorte de méthodologie du pas à pas, et pour de bonnes raisons. C'était pour déjouer, si vous voulez, les mauvaises raisons d'État. Hein. C'est-à-dire que il fallait trouver des fenêtres d'opportunité pour adopter telle convention, mettre en place telle procédure, etc. Et ça se faisait de manière très circonstancielle. C'est vraiment la stratégie ou la tactique de négociation qui exigeait ça. Et puis on se disait aussi pendant toute une première période que plus ne nuisait pas. C'est-à-dire que finalement, plus vous avez de mécanismes de protection, bah, il y a peut-être des doublons, des duplications, mais ça renforce la protection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être depuis une dizaine d'années, on en arrive au constat que ce système, donc extrêmement foisonnant, avec toutes ces procédures, devient difficilement lisible. Donc l'empirisme, si vous voulez, d'une certaine manière, a trouvé ses limites. Et il est peut-être temps de réfléchir, alors non pas à une totale réorganisation, mais à un perfectionnement du système, notamment de manière à le rendre plus lisible, plus accessible.
Alors on va voir ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, cette question-là, elle se posait déjà. Il y a 12 ans, plus précisément, puisque en 2006, on crée justement le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un peu pour ça justement, pour que les choses soient plus lisibles, pour regrouper finalement tout ça. On a un organe intergouvernemental avec son siège à Genève. On remplaçait là la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, pour le coup créée en 1946. Est-ce que c'est bien pour ça qu'on avait créé justement ce Conseil à l'époque en 2006, pour justement apporter de la lisibilité? Et puis, regardons aussi en quoi son mandat, ses prérogatives étaient différents justement de ceux de la Commission des droits de l'homme. Qu'est-ce qui change très concrètement avec ce nouveau Conseil?
Alors, est-ce qu'on a fait ça pour améliorer la visibilité du système? Pas vraiment, en vérité. Mmh. Pas vraiment. À ce moment-là, si
alors,
vous voulez...
Alors, pourquoi l'a-t-on fait ?
Alors, pour des raisons essentiellement politiques, si vous voulez. À ce moment-là, la Commission des droits de l'homme, donc qui est en place effectivement depuis 1946, fait l'objet d'une double critique de la part des États-Unis et de ses alliés qui considèrent qu'elle est devenue trop politisée, au sens où elle abrite des dictatures, au fond, les dictatures se font élire à la Commission pour l'utiliser comme un bouclier contre les critiques à l'égard de la situation des droits de l'homme dans leur pays, et puis d'une autre critique qui vient d'une certaine manière des États en développement, et y compris d'un certain nombre de pays qui sont sur la sellette, qui considèrent que la Commission des droits de l'homme est devenue trop politisée parce qu'elle est sélective, parce qu'elle surveille la situation des droits de l'homme en utilisant le deux poids deux mesures. Et donc vous avez une critique convergente, et ça tombe au fond à un moment qui est opportun, parce qu'à ce moment-là, les Nations Unies cherchent à se réformer. Kofi Annan présente un agenda de réforme. Il ne sait pas quoi réformer. Il faut présenter un agenda de réforme pour 2005. Il ne sait pas quoi réformer. Et au fond, le seul organe sur lequel tout le monde est d'accord qu'il faut le réformer, c'est la Commission des droits de l'homme. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, personne n'a de projet et personne n'a de vision. Et donc finalement, le Conseil, si vous voulez, qui est issu de cette réforme, il apporte un certain nombre d'améliorations, mais il ne bouleverse pas le système. Et il ne constitue pas un saut qualitatif fondamental par rapport à ce qui existait auparavant.
Quand je vous entends, j'entends quand même une critique en réalité de ce Conseil des droits de l'homme. Vous le dites pas comme ça, mais au fond, vous dites on n'est pas allé au bout de la réforme, on n'est pas allé au bout des choses, on a réformé ce qu'on pouvait réformer, ce qu'on voulait bien réformer, mais au fond, le chantier reste encore là. C'est ça que j'entends, vous le
Alors,
dites pas
il,
comme ça. Mais
il peut y avoir des critiques qui sont faites à l'égard du Conseil, mais aussi beaucoup de louanges, il faudrait peut-être un peu plus en parler, parce que souvent, on exprime souvent des critiques, mais c'est un organe qui joue un rôle très important. Ma critique, elle porte plutôt sur l'absence de vision. Sur le fait que, en particulier, si vous voulez, les États qui ont une politique étrangère favorable aux droits de l'homme, n'ont jamais eu le courage d'exprimer une vision claire sur ce que devaient être les institutions internationales en matière de droits de l'homme. Et en 2006, au fond, le seul mot d'ordre, c'est il faut remplacer la Commission parce qu'elle est décrédibilisée, mais on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et la seule idée, mais qui en réalité n'est pas vraiment une idée très originale, c'est de mettre en place un examen périodique universel, un examen par les pairs, l'EPU, le fameux EPU. En fait, c'est une idée qui est tirée plutôt des organisations économiques, qui crée un examen finalement assez faible, souvent assez complaisant. Alors, qui a pour avantage, je dirais, de constituer un rendez-vous régulier. Tous les États des Nations Unies sont examinés. Donc là, il y a une sorte d'égalité. C'est une manière de répondre, si vous voulez, à la critique du double standard.
EPU, vous dites faible, complaisant. Vous allez bien plus loin que moi dans la critique. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous êtes aussi critique. Cet examen périodique universel, est-ce que, d'abord, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce que c'est un examen qui est indépendant du politique ? Est-ce que quand les experts pointent effectivement des failles, des manquements de tel ou tel État, on a la certitude que les choses vont aller au bout et que tout ça va être correctement remonté, ou est-ce que très vite on va rencontrer des obstacles politiques qui vont faire qu'on va laisser tout ça sous le boisseau ?
Ce qu'il faut dire pour compléter la critique, elle vient du fait que En 2006, on a déjà tout un système indépendant de supervision avec les comités d'experts indépendants que vous avez évoqués, dont le comité des droits de l'homme, dont je suis membre, les procédures spéciales, donc c'est des experts indépendants aussi. Donc vous avez tout cet ensemble de procédures indépendantes qui font rapport sur la situation des droits de l'homme, qui interviennent en urgence, qui font un travail absolument formidable. Et au lieu de renforcer ce système, on crée quelque chose de nouveau, qui est l'examen périodique universel, dans le cadre, alors non pas des organes indépendants, qui existe, mais dans le cadre d'un organe politique qui est le Conseil des droits de l'homme. Pourquoi c'est un organe politique? Tout simplement parce qu'il est composé d'États et que les États sont des entités politiques. Un État, quand il parle d'un sujet, en parle toujours de manière politique, en ce sens où il a toujours en tête, un diplomate national a toujours en tête la défense de l'intérêt national de son pays. Et c'est tout à fait naturel, c'est son métier, je dirais.
Donc on a repolitisé la chose.
On n'a pas.
Alors, c'était déjà politisé, mais on a aggravé la situation.
On l'a pas changé. C'est-à-dire qu'effectivement, les accusations de politisation de la Commission des droits de l'homme n'ont pas trouvé de remède dans la création du Conseil, qui reste un organe intergouvernemental, sans faire ce qu'on aurait dû faire, qui était de renforcer la composante indépendante, au fond. Si vous voulez, je pense que pour dépolitiser, ça a été l'expérience au Conseil de l'Europe. Comment est-ce qu'on a dépolitisé la question des droits de l'homme au Conseil de l'Europe en renforçant la composante indépendante, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, au détriment de la composante politique qui est le comité des ministres. Aujourd'hui, le comité des ministres du Conseil de l'Europe n'a plus qu'un seul rôle, c'est de suivre l'application et de pousser pour l'application par les États des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Aux Nations Unies, on n'a pas encore atteint ce nouvel équilibre où la composante indépendante porte des jugements indépendants, de manière impartiale, et où la composante politique est là pour faire pression pour que ces jugements soient mis en œuvre.
Et on l'a vu encore il y a très peu de temps avec ce qu'on a appelé dans la presse les Congo Files. Vous avez probablement suivi cette affaire-là. Ces deux experts des Nations Unies qui avaient été tués en République démocratique du Congo. Il y a eu une enquête de policiers des Nations Unies. Très clairement, les conclusions vont dans le sens d'une implication assez claire des autorités de Kinshasa, sauf que quand les choses sont remontées à New York, au siège des Nations Unies, eh bien on s'est bien rendu compte que c'était très problématique, un peu gênant pour les autorités congolaises, et que donc on allait empêcher une enquête indépendante de sorte à ménager un petit peu ce régime qui, disons-le, piétine assez largement les droits humains. On voit ce à quoi ça peut aboutir.
Oui, alors c'est pas une affaire qui a été traitée hein, stricto sensu au sein des organes de protection des droits de l'homme. Donc c'est une enquête indépendante qui a été menée parce que c'était au fond une mission du Conseil de sécurité. Donc le Conseil et les organes de protection des droits de l'homme n'ont pas été saisis,
mais enfin ils auraient pu l'être.
Oui, ils peuvent toujours d'ailleurs effectivement, mais disons que pour l'instant c'était une mission du Conseil de sécurité, c'est le Conseil de sécurité qui je dirais tenait les manettes. Mais si on veut revenir sur la République démocratique du Congo, moi j'ai un témoignage personnel de ce point de vue-là puisque j'étais rapporteur la situation de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'examen du rapport périodique. Nous avons rendu, le comité des droits de l'homme a rendu des conclusions et recommandations qui étaient quand même assez dures pour la République démocratique du Congo, extrêmement détaillées, extrêmement étayées. C'est le travail que font les organes d'experts indépendants, qui est un travail impartial et objectif. Eh bien, ce travail n'a pas été pris en compte au moment de la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. La République démocratique du Congo a été élue par l'Assemblée générale au Conseil des droits de l'homme. Donc, c'est pour illustrer, si vous voulez, le problème que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas le problème de la politisation des droits de l'homme, c'est le problème que la composante politique prend trop de place dans le système des Nations Unies par rapport à la composante indépendante qui existe et qui fait un énorme travail.
Donc, en vous entendant, ça veut dire que, par exemple, il faudrait réformer la procédure de présentation des rapports périodiques par les États devant les comités des Nations Unies. Par exemple, ça serait un élément.
Alors, il faudrait, oui, absolument, il faudrait, du côté des organes indépendants, renforcer ces organes indépendants. Et c'est vraiment la réforme, si vous voulez, manquée en 2006, c'est que ces organes indépendants n'ont pas été suffisamment renforcés. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions, il y a un certain nombre de fenêtres d'opportunité pour les renforcer. En 2020, l'Assemblée générale va se pencher à nouveau sur, effectivement, la procédure de présentation des rapports périodiques devant les organes de traité. Il est très important que les États qui veulent défendre le système des Nations Unies et que la société civile se mobilisent de manière très active pour défendre ce système, parce qu'il est aujourd'hui menacé. Il y a des propositions positives, mais il y a aussi beaucoup d'États qui font des propositions pour l'affaiblir plus encore.
Comment on fait pour justement associer les opinions pour qu'elles pèsent dans ces réformes?
Associer les opinions?
Absolument. Comment faire pour que les sociétés civiles se sentent concernées par tout ça et disent effectivement, au-delà de porter un pins, je vous remercie encore de me l'avoir apporté, mais comment est-ce qu'on fait, comment les sociétés font pour peser sur ces réformes qui sont cruciales?
Alors, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui jouent un rôle très important dans la mobilisation des opinions publiques. Donc, il faut passer par ce canal. Je dirais que la difficulté parfois que nous avons avec les questions institutionnelles, c'est qu'elles n'intéressent pas toujours au premier chef les organisations non gouvernementales, qui ont parfois, c'est une petite critique que je leur adresse, qui ont parfois tendance à considérer que ces institutions sont là, qu'elles peuvent les utiliser, qu'elles seront là et qu'elles seront toujours là. Et c'est faux, c'est un manque de perspective historique. Toutes ces institutions ont été acquises au prix de combats, de luttes, y compris par la société civile. La plupart de ces institutions ont été mises en place sur proposition des organisations non gouvernementales. Et il faut continuer le combat pour faire en sorte non seulement qu'elle soit maintenue, mais aussi qu'elle soit améliorée.
Surtout que dans ces institutions, le combat politique, il est réel. Je vous propose d'écouter un extrait d'un discours de Zeid Ra'ad Al Hussein. À l'époque, il est haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est en septembre 2016 à la écouter.
Je défends et promeux les droits humains de chaque individu. Partout. Des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des immigrants. Et je suis en colère contre les mensonges de M. Wilder, ses demi-vérités, ses manipulations et son instrumentalisation de la peur. Et M. Wilder partage cela avec M. Trump, M. Orban, M. Zeman, M. Hofer, M. Fico, Mme Le Pen, M. Farage et avec Daesh aussi. Tous cherchent un retour en arrière, rêvent d'une société pure, de champs ensoleillés où les peuples sont unis par leur religion et leur ethnicité, vivant en paix dans l'isolation, leurs croyances, débarrassés du crime, des influences étrangères et de la guerre.
Zeid Ra'ad Al Hussein, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de 2014 à 2018. Il a été d'abord représentant permanent de la Jordanie auprès des Nations Unies. Ensuite, il a été ambassadeur jordanien à Washington. Et puis, il est devenu haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est quand même un poste central dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est cette question de l'application, la protection des droits de l'homme dans le monde. Aujourd'hui, je crois que c'est Michel Bachelet qui a récupéré ce poste-là. Mais son action, Olivier de Frouville, si on veut faire une sorte de bilan, je crois que elle est diversement, disons, apprécié, d'aucuns considérant qu'il a été courageux et que par exemple cet extrait-là d'un discours où il s'en prend très clairement à un certain nombre de populistes, classons-les comme ça, même si c'est très difficile, hein, ce terme est extrêmement flou, mais disons comme ça. D'autres pensent qu'il a fait beaucoup de bruit finalement pour pas grand-chose, en tout cas pour des résultats assez maigres. Votre point de vue à vous, Olivier de Frouville?
Si vous voulez, le poste de haut commissaire aux droits de l'homme, il a un double rôle. C'est un peu comme le secrétaire général des Nations Unies. C'est à la fois un secrétaire et un général. Donc il a un rôle de général et de ce point de vue-là, Zeid Al Hussein a joué un rôle important. Il a été effectivement une image et je pense que beaucoup de gens ont connu l'Organisation des Nations Unies en matière de droits de l'homme à travers son image et à travers ses discours toujours très engagés. Mais il a aussi un rôle de secrétaire, c'est-à-dire qu'il a le rôle à la fois de protéger, promouvoir et améliorer l'organisation dont il a la charge. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, je crois que l'action de Zeid Al Hussein est discutable parce qu'il a effectivement fait des très très beaux discours, mais il n'a malheureusement pas contribué à renforcer le système dont il avait la responsabilité. Il a pris la parole très souvent, au fond, en son nom personnel, alors même que vous avez toute une composante, justement, tous ces organes indépendants d'experts qui pouvaient prendre la parole, y compris pour critiquer des États. Il l'a fait d'une certaine manière à leur place, avec un discours beaucoup plus politique que n'auraient eu ces organes indépendants, qui seraient fondés sur des normes juridiques et avec des risques politiques.
Donc il a affaibli en fait ce système des droits de l'homme, ces systèmes de onusiens. C'est ce que vous le dites dans un papier.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il a certainement pas contribué à le renforcer et que par conséquent, dans les circonstances actuelles, qui sont des circonstances actuelles difficiles, où il faut mettre toutes les chances de notre côté, il a effectivement contribué finalement, malheureusement, à l'affaiblir.
Et on dit même, en tout cas certains le pensent, qu'il a carrément sabonné la planche à celle qui lui a succédé, Michel Bachelet. C'est ce qu'on dit dans les couloirs de l'ONU.
C'est-à-dire que malheureusement, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à se faire valoir. Alors il a trop cherché à se faire valoir personnellement, au détriment à la fois de la cause et au détriment des mécanismes dont il avait la charge. Et au moment où il a annoncé qu'il ne se représenterait pas, en fait, il avait aucune chance d'être redésigné. Il a dit que sa tâche était impossible, ce qui était au fond effectivement un mauvais cadeau à faire ou un mauvais message à lancer à sa successeur.
Juin 2018, justement, ce haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zedrad Zed Al Hussein, formule des critiques sur la politique, je cite, inadmissible et cruelle des autorités américaines de séparation d'enfants et de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Résultat, l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, annonce le retrait tout simplement des États-Unis du Conseil des droits de l'homme.
Pendant trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a été protecteur des violateurs des droits humains et un cloaque des partis pris politiques. Malheureusement, il est maintenant clair que notre appel à la réforme n'a pas été entendu. Les violateurs des droits de l'homme continuent à sévir et à être élus au Conseil. Par conséquent, comme nous avions prévenu il y a un an, si nous ne voyons aucun progrès, les États-Unis se retirent officiellement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ainsi, je veux qu'il soit bien clair que cette décision n'est pas un retrait de nos engagements pour les droits de l'homme. Au contraire, nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts, qui est une parodie des droits de l'homme.
Voilà la réaction qui s'est pas fait attendre. On entendait à l'instant Nikki Haley. On va retrouver une nouvelle invitée, Annick Cizel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, une spécialiste de politique étrangère américaine. Comment vous décryptez cette décision de retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Est-ce que c'est juste une réaction à une attaque du haut-commissaire dont je parlais juste avant, qu'on a considéré comme inacceptable? Ou est-ce que c'est aussi autre chose, de peut-être plus profond, qui tiendrait évidemment à une méfiance, à une défiance plus globale envers tout organe qui pourrait encombrer, gêner les Nations Unies, Annick Cizel?
Alors c'est vrai qu'il y a une réaction épidermique immédiate parce que ce discours de Zed Al Hussein n'est pas nouveau. Il s'est fait le champion en fait des valeurs américaines contre l'administration Trump de manière extrêmement partisane, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il a effectivement endossé un petit peu une mission démocrate. On avait un petit peu l'impression dans certaines de ses interventions d'entendre l'administration Obama, ce qui bien évidemment n'était pas supportable par l'administration Trump. Mais de manière infiniment plus profonde, c'est aussi la condamnation systématiquement de la politique d'Israël au sein de la Commission, au sein du Conseil, qui a alarmé pas simplement l'administration, pas simplement l'exécutif américain, mais également le Congrès des États-Unis, qui s'émouvait de manière répétée sur le fait que le financement des États-Unis, donc les États-Unis se sont retirés au milieu de leur mandat au sein du Conseil, et que le financement que les États-Unis accordaient aux droits humains au sein de l'ONU allait à l'encontre des principes de sécurité nationale américains qui soutiennent presque inconditionnellement actuellement la politique israélienne. Donc, et qui condamne par la voix très très exprimée aujourd'hui du conseiller à la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, tout soutien aux Palestiniens. Donc on avait une espèce de triangulation à l'instant T qui faisait que le discours des droits humains des Nations Unies, qui menaient les Nations Unies, n'étaient pas audibles pour les Américains, mais où des principes de sécurité nationale tels qu'ils sont définis actuellement par l'administration américaine en place, tout ceci n'était pas conciliable.
Vous n'avez pas évoqué, Annick Cizel, le nom de Donald Trump. Il n'y a pas eu sur ce coup-là de facteur Trump. Et là, si on revient un tout petit peu en arrière, on peut aussi parler de 2006, quand George Bush décide de ne pas rentrer au Conseil des droits de l'homme précisément. Il faudra attendre Barack Obama pour que les États-Unis l'intègrent. Donc, cette décision de l'administration américaine, elle n'est pas complètement en rupture avec ce qu'il se faisait jusqu'ici. Il y a presque une tradition américaine en la matière.
il y a presque une tradition, je crois qu'il y a vraiment les deux phénomènes. Il y a presque une tradition des États-Unis de se méfier de l'ONU. Je ne vais pas remonter à 1919 et à un Sénat américain isolationniste qui refuse l'entrée des États-Unis dans la Société des Nations que le président démocrate Woodrow Wilson appelait de ses voeux et contribuait à mettre en place à l'époque. Mais sans remonter jusque-là, c'est vrai que depuis le 11 septembre 2001, l'administration Bush avait pris ses distances, oui, vous venez de le rappeler, en 2006, en refusant d'adhérer à la transformation de la Commission des droits de l'homme que Eleanor Roosevelt, démocrate, First Lady démocrate, avait contribué à mettre en place en 1948. Mais c'est également, enfin en 1946, avec la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1948, c'est une tradition qui est rappelé en 2006 aussi dans les suites de la guerre en Irak, mais surtout, et on l'oublie à l'international, par rapport à une tradition américaine de porter une jurisprudence, donc au niveau des tribunaux américains, contraire à celle de l'ONU. En 2002, dans les suites du 11 septembre et à la veille de l'entrée en guerre en Irak, les États-Unis passent une loi qui va, le Congrès américain, donc signé par le président Bush, qui va protéger les forces armées américaines contre la Cour pénale internationale, contre la Commission des droits de l'homme de l'ONU, protéger les possibles exactions des forces armées américaines et de celles de leurs alliés sur la scène internationale. Et cette tension qu'on connaît également par rapport aux sanctions et à l'extraterritorialité des sanctions américaines sur la scène internationale, cette tension permanente entre une jurisprudence souverainiste des États-Unis et la législation internationale, c'est une tendance à long terme, qui s'exacerbe bien évidemment au niveau de l'administration Trump aujourd'hui, qui choisit très souvent le nationalisme par rapport à l'universalisme et qui prend donc le contre-pied systématiquement de cet internationalisme wilsonien qui préside à l'existence des Nations Unies dans leur ensemble et de la protection des droits humains aux Nations Unies en particulier.
Vous restez avec nous, Annexis. Je voudrais entendre Olivier de Frouville sur ce retrait américain du Conseil des droits de l'homme. Olivier de Frouville, finalement, pourquoi ils en sont sortis? Ils auraient pu très bien rester dans l'organe sans éventuellement voter les résolutions qui en découlaient, peut-être même en essayant de l'intérieur, de réformer les choses. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis quand même?
Il ne faut pas oublier qu'à partir du 11 septembre 2001, enfin le lendemain du 11 septembre 2001, les États-Unis de l'administration de George Bush s'engagent dans une pratique systématique et programmée de violation des droits de l'homme. Avec le programme en particulier des Extraordinary Renditions, hein, qui consiste à kidnapper des personnes et à les envoyer dans des pays où elles vont être torturées, donc avec une forme de délocalisation de la torture. Il y a tout le système des vols secrets de la CIA qui est mis à jour par plusieurs rapports internationaux, y compris des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme, donc qui, à ce moment-là, dénoncent ce système. Les États-Unis se retrouvent à leur tour sur la sellette de la Commission des droits de l'homme à travers les organes d'experts indépendants. Et donc, ils vont, si vous voulez, saisir un certain nombre d'événements, et notamment, effectivement, le fait que ce groupe des États, disons, qui sont souvent visés par les critiques visés par les critiques de la Commission, se font élire à la Commission. Ils vont saisir ces événements, la présidence, par exemple, de la Libye en 2003, pour développer un discours selon lequel, en réalité, aujourd'hui, la Commission est décrédibilisée parce qu'elle sert à des États qui violent les droits de l'homme, selon eux, se protéger contre toute critique. Et ce qui est amusant, c'est que, au fond, la critique est articulée aujourd'hui qui a été articulée par Nikki Haley, est exactement la même à l'égard du Conseil des droits de l'homme. Donc, ce qui montre qu'effectivement, la dépolitisation que l'on espérait de la part du Conseil n'a pas eu lieu.
Annick Cizel, encore une toute dernière question qui n'est même pas une provocation, Annick Cizel, parce que Nikki Haley avait expliqué au moment de son retrait que ça ne signifie absolument pas que son pays arrêterait de s'engager en faveur des droits humains, mais Que fait l'administration américaine pour défendre les droits de l'homme? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel effort ou est-ce que c'est vraiment à géométrie variable en fonction de ses propres intérêts? On a évidemment en tête l'affaire Khashoggi et l'Arabie Saoudite, le meurtre de ce journaliste commandité a priori par les autorités saoudiennes qui pèse visiblement assez peu face aux milliards de dollars de contrats d'armement. Donc la question est valable, me semble-t-il, Annick Cizel.
Oui, elle est valable et elle est visible, ou plus exactement invisible, sur le site du Département d'État américain actuellement. Traditionnellement, il existe un poste de sous-secrétaire au Département d'État, donc de sous-secrétaire d'État pour la sécurité des populations civiles, de la démocratie et des droits humains, c'est ainsi que se nomme le poste actuellement. Ce poste est toujours non pourvu à la date à laquelle nous sommes. Le bureau qui en dépend sur la démocratie, les droits humains et le travail est non pourvu également. C'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui prend la parole en ce nom. Et ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que, loin du multilatéralisme, les principes de bonne gouvernance existent toujours, mais on est très très loin des politiques de promotion de la démocratie, entre guillemets, qui se faisaient à l'époque du nation building sous George W. Bush. On est très loin d'une mise en avant des valeurs américaines. On est dans des négociations bilatérales qui conditionnent les aides bilatérales des États-Unis à une certaine forme de gouvernance dans lesquelles on trouve éventuellement un peu de démocratie, un peu de droits humains, mais clairement on le voit sur la situation au Yémen aujourd'hui, les États-Unis étant dans une position de retranchement et de proclamation de principes plutôt que de valeurs humanistes, on voit aujourd'hui un désalignement quelque part de l'administration Trump par rapport à cette tradition qui était plutôt bipartisane, jusqu'à présent.
Merci beaucoup Annick Cizel d'avoir été avec nous ce matin. On va retrouver dans quelques instants Françoise Tulkens depuis Bruxelles, qui est ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant de la retrouver, puisque toute la journée on vous propose la lecture des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 par l'actrice et écrivaine Sylvie Granotier. Tout de suite, Olivier de Froville, je propose qu'on écoute les articles 19 et 20.
Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Olivier de Frouville, vous avez entendu cette lecture des articles 19 et 20 par l'écrivaine et actrice Sylvie Granotier. Que vous inspire-t-il, et peut-être en particulier après les arrestations de samedi, avec des dizaines de gilets jaunes venus à Paris pour dire leur colère? Certaines voix s'élèvent ce matin pour dire que cette liberté de manifester a été bafouée. On parle de 800 arrestations préventives, je mets des guillemets. Est-ce que vous diriez qu'effectivement ce droit fondamental, qui est un droit de l'homme, n'est pas respecté?
Bon, sur les événements récents d'hier, c'était un peu trop tôt pour se prononcer. Vous savez, je suis un expert juriste en matière de droits de l'homme. Par conséquent, je m'en prononce jamais sans avoir le dossier véritablement sous les yeux et à partir d'informations aussi récentes. Mais ce que je crois en tout cas, c'est que il y a quelque chose de fondamental dans les événements récents, c'est que les gens qui sont descendus dans la rue, qui s'expriment à travers différents canaux, au fond, expriment un besoin de droit et un besoin de réclamer un certain nombre de droits. Alors, ils l'expriment pas forcément de cette manière. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu qui moi me préoccupe, ou m'attriste d'une certaine manière, c'est que au fond, ils ne se reconnaissent peut-être pas suffisamment dans cette Déclaration des droits de l'homme, dont ils pourraient pourtant se prévaloir entièrement.
On va parler de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été créée en 1959 par le Conseil de l'Europe. Sa mission est d'assurer le respect des engagements pris par les États dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette convention, justement, c'est un traité international signé en 1953 qui se réfère directement à la Déclaration universelle de 1948. Donc l'ADN de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien de protéger les engagements pris dans le cadre de cette déclaration. On va retrouver Françoise Tulkens. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin par téléphone depuis Bruxelles, ancienne juge de la Cour européenne des droits de l'homme entre 1998 et 2012. Vous disiez dans une récente interview à Françoise Tulkens, je vous cite, Depuis quelques années, les droits de l'homme n'ont plus la cote. Beaucoup d'États ne veulent plus de ce contrôle des droits de l'homme. Ils ne veulent plus de contrôle externe comme celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi cette inquiétude? Qu'est-ce qui vous inquiète en particulier? Quels sont les signes précisément qui montrent qu'il y a des efforts d'un certain nombre d'États qui chercheraient à échapper à cette justice?
Oui, écoutez, je voudrais d'abord dire un petit mot quand même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui c'est le 70e anniversaire, et c'est ça que je fais ici maintenant à Bruxelles, où on inaugure une obélisque, où tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme vont être inscrits, sont inscrits, et qui montrent bien que les droits de l'homme, c'est un horizon. Alors voilà, ça je voulais quand même commencer par là, et puisque vous évoquez la question tout à l'heure, juste avant des manifestations et tout ça, il y a quand même un article de la Déclaration qui est essentiel, c'est le droit pour chacun à une vie décente, à une vie humaine, à la dignité de la personne. Et je dirais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler. La déclaration, maintenant, universelle, c'est une déclaration, c'est pas une convention. La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ça c'est vraiment un texte maintenant qui engage les États. Non seulement qui engage les États, mais les États reconnaissent les droits garantis. Et ils ont également accepté que les droits humains soient mis sous le contrôle d'une instance supranationale. Ça, c'est un peu un classique en matière de droit international, c'est que les droits humains doivent être soumis à un mécanisme de contrôle. Alors, c'est vrai que c'est une idée forte, c'est une idée révolutionnaire. Et déjà, en 1950, c'était pas si facile d'obtenir ce genre de choses. Maintenant, effectivement, le vent a un peu tourné, ça c'est certain. Les droits humains, je n'aime pas trop l'expression non plus la cote, c'est moi qui l'ai employé, c'est peut-être pas excellent, mais les droits humains sont menacés d'une certaine manière. Ça paraît pour certains des choses inutiles et des choses pareilles. Alors, le contrôle, évidemment, d'une cour supranationale, composée de juges étrangers, même parfois des femmes, vous vous rendez bien compte. Alors, c'est vrai que certains pays, maintenant, ne le supportent plus.
Est-ce qu'en particulier la Cour européenne des droits de l'homme est menacée? Il y a eu très récemment, par exemple, la Turquie qui a refusé la libération d'un leader kurde d'opposition qui s'appelle Zelatin Demirtas, alors que la Cour, précisément, européenne des droits de l'homme avait rendu un arrêt demandant sa libération. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est d'abord, effectivement, on voit bien que la Turquie ne veut pas faire ce que la Cour européenne des droits de l'homme lui demande. Mais en plus, alors même qu'elle est signataire de cette convention, on se demande comment est-ce qu'elle fait du point de vue du droit pour justement ne pas l'appliquer. Et on se demande même si c'est un cas si isolé que ça.
Mais ce n'était pas auparavant, ça le devient un tout petit peu. En ce sens que dans l'affaire que vous citez, effectivement, la Turquie, qui est membre du Conseil de l'Europe et qui est un juge et qui fait partie du mécanisme de contrôle de la Cour et un juge turc auprès de la Cour depuis 1954, donc c'est pas hier. Alors maintenant, effectivement, ne plus mettre en œuvre un arrêt de la Cour, et ça c'est évidemment une violation de la Convention, puisque le texte dit que les États mettent en œuvre les arrêts de la Cour. Ça sera le comité des ministres qui doit examiner cette violation de la Convention. Et c'est évidemment quelque chose de grave, parce qu'un arrêt de la Cour, je dirais sa force, ce n'est pas simplement que l'arrêt soit prononcé, c'est qu'il soit mis en œuvre et que la question qui a posé problème soit résolue au niveau interne. Alors la Turquie, effectivement, maintenant, prend un peu les arrêts à la carte. La Russie également, et même adopté une loi en Russie, disant qu'il ne mettrait en œuvre les arrêts de la Cour que ceux qui ne sont pas contraires à la Constitution. Ce qui est évidemment une hérésie. Ce qui est une hérésie, ça veut dire que certains États, et j'espère que le mouvement va s'arrêter là, parce que ça veut dire qu'on n'accepte plus qu'il y ait une instance extérieure, un tiers, c'est ça la Cour des droits de l'homme, on est un tiers qui assure le respect des droits fondamentaux par un arrêt, mais aussi surtout par la mise en œuvre, par l'exécution de cet arrêt. Et ça, c'est maintenant une question vraiment préoccupante, ça je ne le cache pas, très préoccupante.
Oui, parce que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont contraignants en théorie.
Ils sont obligatoires, tout simplement. Oui. Ils sont obligatoires. L'article 46 est très clair. Les États s'engagent et s'y s'engagent à mettre en œuvre les arrêts de la Cour dans les litiges auxquels ils sont partis. Même sans texte devant moi, on le connaît par cœur tellement ces dispositions sont importantes. Sinon, les droits de l'homme sont théoriques et illusoires. Il faut qu'ils soient concrets et effectifs. Pour être concrets et effectifs, ils doivent être mis en œuvre. Et c'est ça, c'est une question, c'est vraiment une question préoccupante.
Préoccupante au point de s'inquiéter.
Parce qu'on se retrouve, je dirais, avant 1950. C'est vraiment une régression. C'est évidemment une régression.
Préoccupante au point d'envisager, de s'inquiéter d'une éventuelle disparition de cette Cour européenne des droits de l'homme. Si elle prend des arrêts qui ne sont pas respectés ni par la Turquie, ni par la Russie.
Oui, j'espère que l'épidémie va s'arrêter.
ça sert certain que l'épidémie va s'arrêter. Je n'imagine pas des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, même, bien sûr, on connaît un peu la situation. Je ne peux pas imaginer qu'en 2018, on arrive à une telle régression. Je crois que maintenant, c'est effectivement une situation grave, c'est certain. C'est certain, mais je ne peux pas imaginer qu'on abandonne la Convention européenne des droits de l'homme. Alors on retourne à la barbarie. Pardonnez-moi d'employer des mots un peu durs, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un recul de civilisation. Et ça, quand même, à un moment donné, je dirais, le bon sens doit reprendre du terrain. Le rôle des États et le rôle des gouvernements, ils doivent parler aux personnes, ils doivent parler au peuple, ils doivent parler aux gens, ils doivent leur expliquer la situation et cesser de travailler sur cette peur qui au fond n'aboutit à rien.
Olivier de Fourville,
donc je trouve peut-être que là, il y a une forte responsabilité de nous
de tous, nos responsables
de
vous, politiques,
des médias, des gouvernements, de parler sérieusement de ces questions.
Olivier de Fourville.
Pas de manière idéologique.
Réaction peut-être d'Olivier de Fourville.
Une réaction d'abord. Aujourd'hui, bon, les trois États, il y a deux ou trois États dont on parle, hein, qui vraiment protestent ou ne veulent pas appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la Russie, la Turquie. Je crois qu'avec l'Ukraine, Madame Tulkins me corrigera, mais c'est pratiquement 60% du contentieux de la Cour. Donc on comprend que ces États aussi se sentent plus particulièrement visés. Mais la deuxième chose, je crois, qui est très importante plus généralement et dont il faut prendre conscience, Françoise Tulkins dit « j'espère que l'épidémie va s'arrêter là », mais pour que l'épidémie s'arrête, il faut agir parce qu'on est dans une bataille des idées. On est dans une double bataille aujourd'hui, une bataille des idées, une bataille de l'information. Et les deux sont liés. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un certain nombre d'idées. On fait souvent la comparaison avec les années 30 et je ne crois pas que l'histoire ne se répète pas. Mais en revanche, les intellectuels, eux, se répètent. Et si vous écoutez un certain nombre d'idées qui sont aujourd'hui formulées contre les droits de l'homme, elles reprennent pratiquement exactement un certain nombre d'idées qui ont été élaborées dans les années 30 et qui ont préparé et accompagné l'avènement du totalitarisme. Donc il est très très important aujourd'hui que nous portions nos efforts sur cette bataille des idées qui va de pair avec une bataille de l'information parce qu'il faut aussi faire entendre ces idées et c'est de plus en plus difficile parce que l'internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus accaparés par les tenant de ces idées, y compris lorsqu'ils sont appuyés par un certain nombre d'États dont nous parlons.
Merci beaucoup en tout cas à vous Françoise Tulkens d'avoir été avec nous ce matin depuis Bruxelles. Et puis je le rappelle parce que vous l'avez dit au début de votre intervention et au fond c'est très important parce que vous aviez défendu ce projet d'un obélisque pour les droits de l'homme qui se trouvait inauguré aujourd'hui à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est important de mettre ces droits de l'homme physiquement dans nos cités, dans nos territoires. Il faut les voir représenter, les voir écrire, Olivier de Fourville. Hein, voilà, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'évidemment porter un pin, non, mais les mettre dans notre paysage, c'est en fait crucial.
Oui, et en même temps, si vous voulez, il ne faut pas faire d'église et il ne faut pas en faire des lieux de culte. Les droits de l'homme, c'est quelque chose de très concret. Ça se passe dans le social, tous les jours. Les droits de l'homme sont à tout le monde. Et donc ça, c'est très important, je crois, que les gens prennent conscience que ces textes sont là pour eux et qu'il faut qu'ils s'en saisissent pour en réclamer l'application au quotidien.
Merci beaucoup, en tout cas, Olivier de Fourville, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On retrouvera toute cette semaine d'autres émissions consacrées à ces droits de l'homme, 70 ans après, bilan d'une ambition. On va pouvoir poursuivre, ce sera à partir de demain. D'abord, place à notre Brice Couturier national avec le tour du monde des idées, 11h53. Merci beaucoup encore Olivier de Fourville. Je rappellerai, droit international public, c'était chez Dalloz avec Emmanuel Doco. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et dans vos chroniques de la semaine dernière, vous nous mettiez en garde, Brice, contre une probable interférence d'une ou plusieurs puissances étrangères dans la grave crise que nous traversons. Quelles preuves en avez-vous, cher Brice ?
Eh bien, à l'époque, je n'avais d'autres preuves que d'avoir été moi-même confronté sur les réseaux sociaux à des comptes suspects. De ces comptes, vous savez, anonymes, souvent illustrés d'images violentes, relayant des fake news, éructant et menaçant leurs contradicteurs, dont l'œil exercé perçoit qu'ils travaillent en meute et suivent les ordres du jour d'un chef d'orchestre. Orchestre clandestin. De telles cyberattaques ont été observées durant les campagnes électorales récentes dans plusieurs pays démocratiques. Les dirigeants de Twitter, de Facebook, de Google ont dû répondre de leur laxisme dans la vente de publicités ciblées durant la campagne présidentielle américaine de 2016 devant le Congrès. Mark Zuckerberg, le directeur de Facebook, a ainsi reconnu avoir encaissé 100 000 dollars pour la diffusion de 3 000 publicités politiques achetées par 400 faux comptes issus des fameuses usines à trolls russes contrôlées par le gouvernement de ce pays. Les messages diffusés n'étaient pas systématiquement favorables à Trump, même s'ils l'étaient souvent, mais ils alimentaient de vaines polémiques, diffusaient des alarmes imaginaires, hystérisaient le débat public par de folles rumeurs. Alors bien sûr, on peut discuter de l'influence réelle de ces campagnes sur les réseaux sociaux, mais on doit admettre qu'elles contribuent à faire croire à la popularité de certaines idées, puisqu'on les voit tous les jours. Elles ont en tout cas précédé les victoires récentes des partis populistes, Brexit, Trump, Salvini, Bolsonaro. Or, l'agence de cybersécurité New Knowledge, citée par The Times d'hier, affirme avoir repéré 200 comptes Twitter extraordinairement actifs, puisqu'ils diffusent 1600 tweets et retweets par jour en français, tous liés à l'État russe. Ces comptes relaient de fausses informations concernant les événements en cours dans notre pays. Ils visent manifestement à cliver les Français afin de propager un climat de guerre civile, à déstabiliser nos institutions démocratiques et plus généralement à démolir l'Union européenne que Moscou considère comme un obstacle à ses visées expansionnistes. De son côté, le centre d'analyse Alliance for Democracy a identifié 600 comptes Twitter usurpant le hashtag « gilet jaune » et travaillant pour le compte du Kremlin. Ces sites propagandistes propagent donc des rumeurs bien particulières selon un plan de campagne de désinformation systématique. Ainsi, la semaine dernière, ils ont tenté de démontrer que les forces du maintien de l'ordre en France étaient en train de basculer du côté des manifestants. Vous avez peut-être vu vous-même quelques-unes de ces vidéos truquées montrant notamment des policiers de peau retirant leurs casques soi-disant par solidarité avec les gilets jaunes ou celles encore de ce gendarme exhibant un panneau proclamant « ne lâchez rien ». Eh bien, elles sont fausses. À Pau, les policiers ont accepté de retirer leurs casques provisoirement pour parlementer avec des manifestants, puis ils les ont remis. L'AFP consacre son site factuel à déminer un certain nombre de ces fausses informations, mais il n'est pas anodin de constater qu'au même moment, les moyens d'information russes en français comme Sputnik et RT relayaient ce même genre de rumeurs. Ils ont joué un rôle important dans la diffusion du mensonge concernant la réduction des pensions de reversion aux veuves. La rumeur de la semaine, je vous la prédis, c'est « Macron est en train de vendre la France à l'ONU ».
Et Poutine s'était déjà invité durant la campagne électorale présidentielle de 2017, Brice.
Oui, on sait assez bien quels sont les candidats qu'il favorise de son argent et de sa propagande. Ce sont ceux qui partagent ses idées, révolution conservatrice, État autoritaire, souveraineté nationale illimitée et refus du droit international, et ses intérêts aussi, dissolution de l'Union européenne, retour de l'influence russe sur les pays d'Europe centrale en tant qu'ancien membre du pacte de Varsovie. Le plus comique dans l'affaire, c'est que les médias russes de leur côté accusent de subversion dans les affaires françaises le gouvernement américain. Ils évoquent la menace d'une révolution de couleurs qui planerait sur le gouvernement français dans le style de celles qui ont secoué les anciennes républiques soviétiques de Géorgie ou d'Ukraine. Il s'agirait de punir Macron de ses insolences envers Trump. Le fait est que Steve Bannon, le grand manipulateur de médias au service de Donald Trump, est en ce moment en mission en Europe. Il y a créé son mouvement qu'il finance avec de l'argent américain. Il ambitionne d'aider les partis souverainistes à conquérir la majorité des sièges au Parlement européen. Il rencontre les dirigeants des partis d'extrême droite. Samedi, reçu par son grand ami Matteo Salvini, il s'est félicité, je cite, « que Paris brûle ». Vladimir Poutine et Donald Trump peuvent bien s'accuser mutuellement, cela n'empêche pas de conjecturer qu'ils poursuivent en réalité le même objectif, déstabiliser l'État français en entretenant chez nous une atmosphère de guerre civile, sur les réseaux sociaux qu'ils inondent de rumeurs et de propos incendiaires, sachons-nous garder la distance critique qui s'impose.
Preuve, cher Brice, qu'il va falloir peut-être aussi réfléchir à un cadre normatif pour mieux protéger les droits humains dans le domaine du numérique. On parle toute cette semaine des droits de l'homme. Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.